Islamophobia, le podcast.
J'essaye d'habitude de trouver un angle d'approche original pour chaque épisode. Pour celui-ci, j'ai pas eu besoin d'aller chercher bien loin l'inspiration. Il m'a suffi de consulter un article publié sur Europe 1. Article qui s'appuie sur une note confidentielle du renseignement territorial qui me présente, avec d'autres, comme un influenceur islamiste. Selon cette note, je suis coupable de raviver le sentiment de victimisation pour me positionner comme défenseur de la communauté musulmane, pour gagner du crédit auprès des fidèles et leur faire croire que l'État était ouvertement islamophobe. L'article d'Europe 1 est intéressant parce qu'il pose tous les termes du débat. Parler d'islamophobie en France, et plus encore, d'islamophobie institutionnelle, et je vous renvoie à l'épisode précédent, revient à se victimiser. Et cette victimisation est intéressée. C'est une stratégie pour occuper une position, celle de défenseur de la communauté, gagner en audience et déverser son venin sur l'État français. Au lieu de parler de la multiplication des attaques contre les droits et libertés des personnes musulmanes et par suite de toute la population, au lieu d'évoquer l'entreprise en cours de démantèlement des structures musulmanes, c'est-à-dire des fermetures de mosquées, d'écoles, de maisons d'édition, de salles de sport, de snacks, des dissolutions en pagaille d'associations de lutte contre l'islamophobie, d'ONG humanitaires, du gel des avoirs de centaines de structures, on parle de 48 millions d'euros déjà saisis, de la manière dont la loi séparatisme est un texte punitif qui organise la séparation, au lieu de parler de tout ça, on renverse le problème. On met en accusation, non pas le problème, mais les personnes qui en parlent, le dénoncent, s'organisent et défendent leurs droits. On est d'accord que le procédé est un peu grossier, surtout quand on sait que sur ces mêmes grands médias comme Europe 1, les éditorialistes ont libre antenne pour se poser en perpétuelle victime du wokisme, de la cancel culture, du grand remplacement, de l'invasion migratoire et aussi, c'est là que ça devient intéressant, victime de l'islamisation de la société. Il y aurait donc les bonnes et les mauvaises victimes. Alors, la lutte contre l'islamophobie, une lutte victimaire, c'est le thème de ce troisième épisode.
Vous êtes sur Islamophobia, plateforme en accès libre sur l'islamophobie.
À quoi nous renvoie, au juste, le mot de victime ? Plus jeune, on disait « tu t'es fait victimiser » ou bien « sale victime ». Personne n'avait envie de se poser en victime ou de se faire traiter de victime. Plus tard, j'ai retrouvé ce mot en cours de droit pénal à la Sorbonne, où il était question des enquêtes de victimation qu'on utilise en criminologie et en sociologie. Le terme de victimisation renvoie quant à lui à bien autre chose. Réapparu avec force dans le débat public, le mot a plusieurs sens. L'usage qui va nous intéresser ici, c'est celui de reproche, d'outil accusatoire. On va reprocher aux femmes, aux membres des minorités raciales, aux pauvres, etc. de se victimiser. On ne fait ce reproche qu'en réaction à une revendication, une dénonciation. C'est-à-dire contre toute remise en cause de l'ordre dominant des choses. Si, comme Chalroumi ou Mila, vous vous dites victime des fondamentalistes, vous ferez le tour de tous les plateaux télé. Personne ne parlera de victimisation. Cette accusation ne sert qu'à délégitimer les paroles contestataires. C'est avant tout une stratégie de déni. Rappelez-vous, dans le premier épisode, on a vu ensemble l'ampleur du déni autour de l'islamophobie. Parmi les reproches que l'on fait régulièrement à ce mot, il y a celui de censure. Bon, vu l'omniprésence de l'islam dans le débat public, c'est compliqué de prendre cet argument de la censure au sérieux. On reproche aussi au mot « islamophobie » de masquer une volonté de puissance et de conquête. Cet argument-là est très important. Il s'appuie sur l'idée suivante. Vous dites que vous êtes victime d'islamophobie, mais c'est faux. En réalité, vous n'êtes pas les victimes, vous êtes les coupables. Vous êtes coupable de planifier un projet d'islamisation de la société. Coupable d'attaquer les valeurs républicaines, européennes, chrétiennes, libérales, etc. Coupable d'être des séparatistes. Avec ce discours, on est au cœur des théories du complot islamophobe. Théories qu'on va analyser très bientôt sur Islamophobia. Enfin, on reproche au terme d'islamophobie de figer les musulmans et les musulmanes dans une posture victimaire qui nourrit le ressentiment contre la France, voire même la haine de la France. Rien que ça. Dans le premier épisode, on avait évoqué le cas de Pascal Bruckner. Cet homme a construit toute sa carrière autour du champ notionnel de la victimisation, de la culpabilité et de la pénitence. Le racisme, la colonisation, l'esclavage passent par pertes et profits. Bruckner nous invite à tourner définitivement la page d'un livre qui n'a jamais été ouvert en France. Mais l'avantage avec Bruckner, et la raison pour laquelle il est sans cesse invité sur les plateaux télé, c'est qu'il n'est pas utile de lire ses livres. Tout est résumé dans le titre. Je vous en cite 5. Le sanglot de l'homme blanc, tiers-monde, culpabilité, haine de soi, paru en 1983. La tentation de l'innocence, 1995. La tyrannie de la pénitence, essai sur le masochisme occidental, 2006. Un racisme imaginaire, islamophobie et culpabilité, 2017. Enfin, et c'est mon préféré, un coupable presque parfait, la construction du bouc émissaire blanc, 2020. À croire que Pascal Bruckner trouve ses titres sur un générateur sur le net.
Islamophobia, Rafik Chekat.
Si ce procès en victimisation ne provenait que de certains milieux intellectuels parisiens, ce ne serait pas très important. Le problème, c'est que l'État lui-même mène ce procès contre les personnes et les structures musulmanes. La Charte pour les principes de l'islam de France, plus connue sous le nom de Charte des imams, est un texte politique qui n'a aucun équivalent dans les autres cultes. Les responsables de mosquées doivent le signer sous peine de diverses mesures de rétorsion administrative. Concrètement, et je le dis pour les imams qui m'écoutent, vous n'êtes pas obligé de signer ce texte. Seulement, vous vous exposez à voir vos subventions supprimées, le bail annulé, etc. Si vous refusez de signer ce texte politique, on vous accusera de faire de l'islam politique. C'est tout le paradoxe. Dans son article 9, la charte dit ceci, je la cite. « Les musulmans de France et les symboles de leur foi sont trop souvent la cible d'actes hostiles. Ces actes sont l'œuvre d'une minorité extrémiste qui ne saurait être confondue ni avec l'État, ni avec le peuple français. » Donc on doit parler de martiens, d'illuminati ou de choses comme ça. Dès lors, je reprends la lecture. « Les dénonciations d'un prétendu racisme d'État, comme toutes les postures victimaires, relèvent de la diffamation. Elles nourrissent et exacerbent à la fois la haine anti-musulmane et la haine de la France. » Fin de citation. Déjà, l'emploi de l'expression « posture victimaire » est significatif. Ensuite, l'article entrave la parole musulmane avec une définition très singulière de ce qui caractérise le délit de diffamation. En tant que juriste, je peux vous dire que c'est totalement aberrant sur un plan légal. Enfin, le texte inverse le lien de causalité entre le phénomène islamophobe et sa critique. En dénonçant l'islamophobie, les musulmans seraient responsables du ressentiment contre la France et du racisme qu'ils subissent. Cette criminalisation de la lutte contre l'islamophobie, le gouvernement l'a mise en pratique. Entre autres exemples, on peut citer le décret de dissolution de la coordination contre le racisme et l'islamophobie, la CRI, pris en Conseil des ministres le 20 octobre 2021. Ce décret reproche notamment à la CRI, ouvrez les guillemets, devrait activement, en particulier par l'intermédiaire des réseaux sociaux, à cultiver le soupçon d'islamophobie au sein de la société française. Fermez les guillemets. On en est là. Dissoudre une association de lutte contre l'islamophobie au motif qu'elle cultive le soupçon d'islamophobie. C'est aussi surréaliste que de fermer les structures de lutte contre le cancer au motif qu'elle propage l'idée que le cancer existe.
Retrouvez toutes les informations sur islamophobia.fr.
L'islamophobie n'existe pas. Vous n'êtes pas les victimes, mais les coupables. Les vraies victimes, c'est nous. Voilà en substance le discours dominant à l'endroit des musulmans. Est-ce qu'il faut, par un mécanisme de torsion de bâton, demander à tout prix d'être reconnu comme victime? À titre personnel, je pense pas. S'enfermer dans cette position nourrit un individualisme et une approche dépolitisante du racisme qui renforce la logique libérale à l'œuvre. Concrètement, ça veut dire que l'addition de tous les cas d'agression et d'attaque contre les personnes musulmanes et leurs structures ne crée pas un corps collectif, un projet, une force politique. Comme je vous le disais dans l'épisode de présentation, l'épisode 0, la lutte contre l'islamophobie n'est pas une fin en soi, un terminus, mais le point de départ d'une remise en question profonde des institutions qui entravent les droits et libertés collectifs des musulmans et plus généralement de l'ensemble de la population. L'islamophobie existe, c'est un fait. La dénoncer et la combattre, ce n'est pas se poser en victime. Ce n'est pas de la pleurniche, comme on peut l'entendre ici ou là. C'est au contraire se poser en acteur et en actrice d'une lutte sociale, et même en acteur et actrice d'un projet de transformation sociale. C'est au fond assumer la charge subversive de la condition même de musulmans en Europe. À très vite pour un prochain épisode.
C'était Islamophobia, le podcast, un programme conçu et présenté par Rafik Chekat. Production, Perspective Commune. Consultante, Tara Aïter. Toutes les informations sur islamophobia.fr. Pour soutenir ce projet, rendez-vous sur la page Cotisez d'Islamophobia.